la patrimonialisation des vestiges ou des monuments, dans le meilleur des cas de l'industrie, repose sur un triptyque classique dans le champ du patrimoine, qu'on mobilise beaucoup dans le champ du patrimoine industriel, qui est un champ qui n'est plus tout à fait jeune, hein. Il est rentré dans sa phase de croisière. Il s'agissait d'un champ pionnier dans les années 1970, à l'initiative des Anglais, que les Français ont pris à bras-le-corps à partir des années 80 et qui, depuis les années 2000, est entré dans une routine sans pour autant que les records d'affluence aux journées du patrimoine ne signifient que nous ne comptons pas tous les jours des démolitions de monuments majeurs. Hein. On est toujours un petit peu en tension sur ce type de patrimoine-là et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, nous faisons reposer le processus de patrimonialisation sur un triptyque classique, la connaissance, bien sûr, ensuite la protection, distinction, labellisation, et enfin, plus massivement sans doute que dans d'autres champs patrimoniaux pour nous, la reconversion, qui nous pose des tas de soucis d'authenticité. La connaissance, d'abord, elle est partagée par l'université, les associations et aussi beaucoup pour le patrimoine industriel par les services d'inventaire, qu'ils soient pour celui qui détient la compétence obligatoire, les services de l'inventaire général, l'inventaire Malraux, d'ailleurs créé au moment de la reconstruction. C'est intéressant. Alors, il n'envisageait pas du tout que l'on puisse s'intéresser aux bâtiments de la reconstruction, ni aux usines d'ailleurs. Hein, j'ai fait demander à Dominique Hervier si Malraux était intéressé au patrimoine industriel. Elle a cherché dans les archives, elle n'a trouvé aucune mention. Elle encourageait simplement les industriels à reconstruire beau. Hein, il l'a écrit dans des articles du Monde. Donc l'inventaire général, qui à partir des années 80 s'est engagé dans l'inventaire du patrimoine industriel. Donc voilà, nous sommes deux représentants de cette grande aventure de l'esprit, trois même, aventure de l'esprit engagée dans les années 80, mission 1985. On a toujours été confrontés à plusieurs types de problèmes. D'abord, une approche territoriale, gros atout. Mais donc parce qu'on pouvait attraper des sites, des micro-sites dans le détail d'une approche topographique, en fait, gros désavantage, difficulté d'une approche, d'une saisie nationale et surtout d'une saisie par période. Je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler uniquement sur la période de la reconstruction pour ce colloque, je sortais complètement de mes méthodologies habituelles. Ce n'est pas du tout le mode d'entrée, en fait. Hein. Le mode d'entrée, c'est le territoire, le site qui se présente à nous. Et la plupart de nos sites, il faut le savoir, ce sont des palimpsestes. Il est rare d'avoir une architecture spécifiquement de la reconstruction, extrêmement rare, sauf pour quelques monuments machines dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Mais c'est aussi l'intérêt. C'est-à-dire que, et là j'en viens tout de suite au problème de démolition, il est très fréquent que dans une usine ancienne, la première chose que l'on détruise dans le cadre d'une reconversion, c'est le bâtiment post-45. Il faut le savoir. C'est celui qui ne va surtout pas nous intéresser parce que c'est la verrue qu'on a su rajouter. D'où tous nos débats pendant le colloque. Y a-t-il un architecte au moment de la reconstruction pour étendre les usines? Y a-t-il une qualité architecturale? Abandonne-t-on la tradition de la belle usine qui est plutôt du 19e siècle, hein, dans celle qu'en tout cas qu'on distingue par l'inventaire? Voilà, y a-t-il une tradition aussi de la belle usine qui se perpétue dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et c'était tout l'intérêt du colloque de revenir sur cette question. Ce n'était pas si évident que ça, sauf pour les grands exemples de Flins, de Mam, etc. On intervient souvent pour le patrimoine de la reconstruction ou de la grande croissance avant démolition. C'est le cas le plus fréquent que je connaisse, en Île-de-France en tout cas. Il faudrait demander à nos autres collègues, je ferai une petite enquête. Mais traditionnellement, on me demande de venir immortaliser une installation. C'est particulièrement caractéristique pour les grandes centrales thermiques, qui ont pourtant représenté un investissement colossal, un effort national délirant. Pourquoi ? On en parlait de la fonctionnalité, hein, le vice-président nous l'a dit. Une centrale thermique avec 5 tranches 600 MW au fioul. La fonctionnalité, on ne la voit plus aujourd'hui à l'échelle d'EDF. Et donc, ils ont des protocoles extrêmement rigoureux de démolition de leurs grandes installations, d'autant qu'on ne communique plus sur le thermique à EDF aujourd'hui, même si il faut se souvenir que le nucléaire est une extension du thermique. Hein. C'est les ingénieurs du thermique qui ont construit la première centrale de Chaux. Fermons la parenthèse, d'où aussi l'intérêt que nous venions parler avec les anciens. Donc on fait des fermetures. Pour Cheville, on a fait la fête de fermeture de l'usine, on a immortalisé, on a interviewé les anciens et on a photographié la dernière grande fête à grand luxe avec les photos de l'usine. Il restera, nous avons transformé le monument en document. Mais certaines personnes s'intéressent aux deux grandes tours de Porcheville. Les élus se disent, ça fait partie de notre territoire. Y a-t-il quelque chose à faire pour patrimonialiser la centrale de Porcheville? Peut-être. Parce qu'il faut 10 ans à EDF pour démonter une centrale comme celle-là. Et tout d'un coup, on nous demande, mais qui a dessiné le CAUE 78, par exemple, ou même la communication d'EDF? Qui a dessiné la centrale de Porcheville? Ah, on se rend compte finalement que c'est Jean Desmarais, qu'il avait déjà dessiné la centrale de Yainville, amèrement regrettée par notre collègue et ami Emmanuel Réal, qui n'est pas là ici, qui a vu détruire la centrale de Yainville, déjà de Jean Desmarais, Mouvement Moderne, etc. Il a dessiné aussi la centrale de Chinon. On a parlé à l'occasion du colloque. Et donc, on reconstruit de la valeur autour de ces bâtiments-là. EDF va nous maudire, je pense. Ils ont le pouvoir, de toute façon, de suivre leur protocole. Mais on sent que ces grands monuments de la reconstruction, qui ont façonné le paysage, ne disparaîtront pas aussi facilement que ce que pensent les ingénieurs chargés de la démolition. D'où aussi, parfois, un travail de deuil très développé. Ils n'y ont pas pensé à Porcheville, mais ils y ont pensé à Vitry. Parce que l'usine est en plein cœur de ville. Et là, toutes les collectivités se sont associées pour que le spectacle vivant accompagne la démolition. Il faut entrer, il y a des écoles qui sont associées, et on explique que la reconversion urbaine est nécessaire et que progressivement, la centrale doit laisser place à autre chose. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas dans la patrimonialisation, on est dans l'accompagnement de la disparition. Autre cas, la conservation spontanée. Parce que, on en a parlé aussi à l'occasion du colloque, parce que l'architecte a particulièrement travaillé les façades, notamment celles du bâtiment administratif ou du siège. C'est le cas d'une magnifique usine en Seine-et-Marne, la Coper, une usine de produits pharmaceutiques. On les retrouve toujours, hein, l'usine de Debat, qui a donné ce magnifique article dans l'architecture d'aujourd'hui, l'usine heureuse, l'usine pharmaceutique à Garches. Le docteur Debat, toujours cité pour son effort pour faire travailler dans de bonnes conditions ses ouvriers. Une usine pharmaceutique, la Coper, qui a connu une croissance extraordinaire au retour de la guerre grâce à la sécurité sociale, et elle a produit le Doliprane. Vous imaginez un petit peu. Voilà, ensuite, elle l'a vendu et ça continue. Et on passe place Lucien Auvert à Melun et on voit la magnifique façade classicisme moderne, hein, vantée par l'architecture française dans les années 1940 et 50, qui fait l'honneur de l'entreprise. Et elle n'ouvre pas encore aux Journées du patrimoine, mais on passe par la place Lucien Auvert pour montrer le dynamisme de la pharmacie à Melun, longue tradition, Salmon et autres. Voilà. Je ne vais pas détailler plus de cas. Donc, des inventaires avant décès, des reconversions, le maintien d'une activité parce que cette architecture des années 50 est encore considérée comme moderne et majestueuse, et des démolitions systématiques dans les usines palimpsestes dès lors que l'on considère les extensions comme des verrues de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors que protège-t-on de tout ça? Eh bien, c'est très simple. Je n'ai pas encore fait l'analyse détaillée de la base mérimée, mais mes collègues m'ont fait un export. Ce n'est pas si facile à étudier que ça, parce qu'il y a des parties de plusieurs des parties constituantes de périodes différentes. Ça demande une analyse assez fine. Mais grosso modo, je prends l'exemple de l'Île-de-France. Nous n'avons pas de monument historique de l'industrie datant de la deuxième moitié du XXe siècle, sauf évidemment le bâtiment d'Alfortville, Contre-exemple absolu, puisqu'il s'agit du vestiaire et que nous l'avons protégé en raison de la présence d'une mosaïque de Fernand Léger. Je vous promets que j'irai voir si elle a été déposée ou si elle est, si elle est masquée aujourd'hui. Donc aucun bâtiment fonctionnel de l'industrie n'est protégé au titre des monuments historiques. Nous en avons plusieurs, en revanche, de la première moitié du XXe siècle. Concernant les labels, nous en avons en France quelques-uns, j'ai vu, mais pas plus de 5. Et vous voyez, ce n'est sans doute pas, mais à vérifier quand même, hein, je n'ai pas eu assez de temps, pour leur qualité architecturale, mais surtout pour leur fonction. Pourquoi pas d'ailleurs, je ne me prononce pas. Deux établissements vinicoles, une usine d'horlogerie, une usine de production pharmaceutique à Mérignac, pour le label. C'est très peu, hein, je n'ai pas compté le nombre de labels patrimoine 20e qu'il y a aujourd'hui en France, mais c'est plusieurs centaines. Nous n'avons que 4 ou 5 usines. Les labels plus régionaux maintenant. Alors là, je ne peux pas parler de régions qui ne sont pas les miennes. Le bilan n'existe pas. Mais pour le patrimoine industriel francilien, c'est intéressant. On a des éléments. Sachant qu'attention, ce ne sont pas les services qui décident de labelliser. Ce sont les propriétaires qui demandent une labellisation et nous agissons là où il y a le désir d'agir, puisque notre nouveau patrimoine, nos labels du patrimoine d'intérêt régional ouvrent droit à des financements. Et là, on retrouve le palimpseste dans la grande usine de la papeterie du Arjowiggins du Marais, qui date du XVIIIe siècle. Il y a un bâtiment, une grande machine de machines à papier que j'ai réussi à faire passer dans le lot, qui date des années 50. Il est distingué. Rien ne dit que dans le projet de reconversion, de restauration, il sera intégré, puisque c'est un coût considérable. Voilà, on a les problèmes de coût. On peut labelliser, c'est en deux temps. Mais il suffit que la facture soit gigantesque pour ensuite, même le propriétaire, lui, dise « non, ça, on laisse ». Or, il y a de fortes chances pour qu'une grande halle de machines à papier ne puisse pas tout de suite être reconvertie en grande galerie d'art contemporain, puisque c'est la Galleria Continua aujourd'hui, grande galerie italienne, qui possède ce site. Donc, elle désire le label. Va-t-elle engager des frais colossaux pour reconstruire et mettre hors d'air une grande halle des 30 glorieuses, entre guillemets, rien n'est moins sûr. Ils vont se reporter sur le patrimoine plus 19e, plus maîtrisable, les petits espaces, etc. Voilà. Et nous ne pourrons pas forcément suivre sur ces organismes colossaux que sont les grandes halles machines à papier des années 50. La reconversion, maintenant. D'abord, un exemple de désillusion totale, un échec absolu, celui des silos de Louvre, que nous avons essayé d'accompagner durant plus d'un an, au moment où une jeune équipe qui animait les ateliers d'urbanisme pour la reconversion, pour la construction d'un grand écoquartier juste à la limite de la zone de bruit de Roissy. Vous imaginez, Roissy, très fort développement, on cherche un village pour créer un nouvel écoquartier, plus de 3000 logements, on tombe sur le village de Louvre et au milieu, un silo. Tout le monde veut détruire le silo, mais une jeune équipe très volontaire, pro-recyclage de l'existant pour des questions environnementales, puisque c'est aussi une valeur associée à la reconversion. On se projette dans l'avenir en raison de la qualité des bâtiments qu'on n'aura pas besoin de reconstruire. Hein. La reconversion moins chère et plus respectueuse de l'environnement que la démolition-reconstruction. Au moment des ateliers d'urbanisme, ils retournent l'assemblée, qui trouvaient que c'était moche, et tout d'un coup, c'est leur silo, leur beffroi de l'agriculture, c'est merveilleux, on y va, on va le reconvertir, etc. Appel à idées par le PA Plaine de France. Les archis trouvent les jeunes architectes passionnés par le truc, s'associent avec des plasticiens. On trouve ça aujourd'hui dans les équipes hein, qui répondent à l'appel à idées, donc un plasticien, un artiste, un musicien, etc., qui essaie de trouver de nouvelles affectations. Et finalement, tout ça est balayé, malgré une exposition à la Maison de l'architecture en Ile-de-France, enfin, tout a été fait sérieusement, tout ça est balayé pour revenir à un programme. Alors, il y en avait qui avaient pensé à un data center, l'autre un centre culturel, enfin vous imaginez le foisonnement d'idées qu'il pourrait y avoir une piscine, voilà, un centre sportif. Et on revient bêtement à un programme de logement. en disant il n'y a pas besoin de ceci à cet endroit-là, il n'y a pas besoin de ça à cet endroit-là. Voilà. Et alors que toutes les hommes d'équipe d'architectes avaient dit on peut tout faire là-dedans sauf du logement, en raison de la peau de béton extrêmement fine apposée aux cellules du silo, il n'y a pas de mur, ce n'est pas possible, ça ne tient pas, vous retirez les cellules à l'intérieur, ça s'écroule directement. Eh bien, on construit le logement, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui passent par le train de Saint-Quentin le voient tous les jours. Le silo a disparu. Donc, après, j'ai posé la question, problème de structure, il n'était pas possible de construire des logements là-dedans. Et pour faire plaisir aux édiles, et puis pour être quand même conforme à ce qu'ils avaient dit, ils ont reconstruit une façade de silo à l'identique, sorte de symbole un peu dérisoire dans un écoquartier, en réalité totalement neuf et sans valeur ajoutée patrimoniale. Voilà l'exemple de l'échec. Mais, et je termine là-dessus puisque j'ai déjà été trop long, on a de très beaux exemples de réussite. Et je vous conseille vivement, puisque nous sommes en Normandie et que malgré tout, l'inventaire général est une grande famille, malgré la décentralisation, le magnifique ouvrage qui fait référence à l'échelle nationale aujourd'hui. Il est mentionné régulièrement comme l'ouvrage sur la reconversion, même en France, même s'il s'agit d'exemples aux Normands. L'ouvrage d'Emmanuel Réal sur la reconversion de l'architecture industrielle, où elle décline de très très beaux exemples de bâtiments des années 50 reconvertis. Alors ici, au Havre, la résidence étudiante construite dans une usine de reconstruction mécanique, Caillard. L'architecte ayant vu tout de suite la qualité du système poteau-poutre, sa flexibilité, la possibilité d'y aménager une résidence étudiante. Alors, il faut que le programme soit conforme, évidemment, à l'existant. Et c'est là toute la finesse de la reconversion. Il y en a qui sont ratés parce que, précisément, le programme excède complètement les capacités de l'existant. Une salle de boxe dans l'un des bâtiments, on retrouve le palimpseste, de l'usine de drap Blain et Blain à Elbeuf. Je vous ferai passer l'ouvrage. Le pôle d'animation jeunesse dans un silo, comme quoi il n'est pas impossible de reconvertir un silo si on est imaginatif, hein, à Verneuil-sur-Avre. L'espace exposition H2O à Rouen, dans un hangar portuaire. Ici, c'est une structure métallique qui a été réemployée. Vous connaissez tous ces quais de Rouen qui ont été assez finement reconvertis. La scène des musiques actuelles, le 106, dans un hangar portuaire également, au 106 sur le quai à Rouen également. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Merci Stéphanie de me les avoir pointés. La fabrique des savoirs, toujours à Blain et Blain. Et puis, le musée des pêcheries. Donc, on peut aussi avoir des musées hein, dans des lieux qui ont du caractère, dont on conserve des matériaux anciens. Dans l'ancienne sécherie de poissons, la morue normande à Fécamp. Évidemment, on recherche aussi la combinaison entre la valeur d'usage et la valeur symbolique. Hein. On ne l'intègre pas non plus n'importe où. Ces nouveaux équipements. Centre de commerce DOC 76 dans l'entrepôt des douanes de Rouen et sa centrale thermique et le dernier encore. Hein, terminal croisière au hangar portuaire du Havre. Les hangars portuaires sont extrêmement flexibles. On peut y installer des activités qui prennent beaucoup de place sans avoir à reconstruire du neuf. Voilà. Merci beaucoup.